Bon, c'est un privilège d'être invité ce matin parmi vous. Normalement, on fait toutes les salutations. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens de l'église de Marseille, mais vous avez au moins une représentante ici. Donc maintenant, vous pourrez le dire, vous connaissez des gens de l'église de Marseille. Et voilà, Mathilde. Et avec notre famille, nous vivons à Marseille. Et parmi les deux choses que le Seigneur nous met à cœur de travailler et pour lesquelles on doit servir les frères et les sœurs, c'est les cantiques nouveaux, l'évangélisation et l'évangélisation du peuple juif en particulier. Mais ce matin, ben voilà, David m'a. Je sais que depuis des années, ils veulent entendre de nos chants. Vous faites partie des églises qui en chantent quelques-uns. Donc c'est un sujet, ça fait 20 ans maintenant que j'écris des chants et on n'a toujours pas enregistré quoi que ce soit, mais Dieu voulant pour juin. Alors priez pour le mois de juin, qu'enfin on ait un premier enregistrement. Mais ce matin, voilà, maintenant ceci étant dit, je voulais vous partager la parole de Dieu plutôt que ce qu'on est nous, mais c'est bien de se présenter, enfin de faire les présentations. Le titre du message de ce jour, c'est « Musique, cantique et plénitude ». Et je me doutais que ça plairait à cette église, parce que c'est un peu la marque de cette église, la recherche de la présence du Seigneur, la plénitude, j'entends ça depuis des années, je sais que David aussi est sensible, alors je me disais, tiens, ça, si je parle de plénitude, je pense que le titre ça va les intéresser. Mais ce n'est pas de faire quelque chose pour que ça vous plaise qui compte, c'est simplement partager quelque chose qu'il y a dans la parole de Dieu, quelque chose qu'on vit, et quelque chose dont on a besoin. Donc c'est toujours un besoin. Nous le savons tous si on connaît la Bible, que Dieu aime que nous chantions des cantiques. On sait que c'est très important. Je vous relis juste un verset dans le psaume 47 qui dit « Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est le roi de toute la terre, chantez un cantique. » C'est relativement clair. Je pourrais m'arrêter là. On a compris ce qu'on a à faire. On doit chanter pour Dieu. Si vous lisez la Bible, vous verrez dans l'Ancien Testament déjà que les psaumes, tous ces chapitres, ce sont des cantiques. Quand Dieu institue un lieu d'adoration pour lui, pour Israël, il y a un tabernacle, des objets, mais le culte est animé par des cantiques. Les Lévites sont, pour la plupart, il y a tout un corps de Lévites qui est adonné au chant. Donc le temple, le culte rendu à Dieu est accompagné de cantiques. Vous lisez aussi l'histoire d'Israël. À chaque fois qu'il y a un grand événement en Israël, une délivrance, quand ils sortent d'Égypte, ben, quelqu'un chante, se met à chanter et le cantique est consigné dans la Bible. Et vous savez quoi, même quand Dieu a créé les cieux et la terre, ça c'est dans le livre de Job au chapitre 38, verset 7, il est dit que les anges, les étoiles, les fils de Dieu ont chanté d'allégresse. Donc pendant même que Dieu crée les cieux et la terre, ben les anges et tout ça chantaient des chants d'allégresse. Le Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus, le soir de la Pâque, non seulement a préparé cette table, enfin en tout cas a donné la scène, il a établi la nouvelle alliance et il est dit qu'ils ont chanté ensemble des cantiques qui étaient chantés traditionnellement pour la Pâque. Quand Paul est en prison, en pleine nuit, juste avant que les chaînes ne lui tombent et que les portes s'ouvrent, il est en train de chanter des cantiques. Bon, maintenant, si vous chantez des cantiques en pleine nuit, vos voisins vont peut-être se plaindre. Mais lui, en tout cas, en prison, ça a été très apprécié, en tout cas par Dieu. Et si vous ouvrez le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, le livre de la Révélation, les temps à venir et quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, les myriades, les anges, les sauvés, les purifiés de l'agneau chanteront des cantiques à la gloire de l'agneau, ce qu'on a chanté comme premier cantique, à la gloire de l'agneau. Voilà ce qui va se passer. Donc, il me semble que le chant, le cantique, est quelque chose d'important dans la pensée de Dieu. La chose, me semble-t-il, est entendue. J'aurai pas besoin d'en parler pendant 2 heures pour vous convaincre de ça. Alors, en tant que chrétien, Dieu veut quand même nous donner un cadre à l'expression de ce chant, pour lui, du cantique. Et il y a 2 versets qui sont bien connus. C'est les versets fondamentaux, comme les deux jambes et les deux pieds sur lesquels s'appuie l'hymnologie chrétienne. C'est un dans l'Épître aux Éphésiens et un dans l'Épître aux Colossiens. On va les lire tous les deux. un peu en introduction de chacun des points qu'on va voir. On ne les lit pas maintenant, mais on va voir, et c'est ça qui m'intéresse, que ces deux versets-là associent, c'est ça qui est un peu original et un peu nouveau dans ma pensée, associent l'idée du cantique à la plénitude. Et c'est pas, vous allez voir, c'est pas une petite trouvaille pastorale pour aiguiser notre curiosité. C'est vraiment deux choses qui sont dites dans les deux versets, et on va le voir maintenant. Donc, en parlant de la plénitude de l'esprit, et là, on va dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 14. Éphésiens, chapitre 5. On le lit dans les versets qui précèdent et les versets qui suivent, pour que ce soit quand même une pensée générale, pas juste un verset qui nous intéresse, verset 14. Donc, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éveillera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Je trouve important de le mettre dans le passage parce que ce n'est pas juste des idées que Dieu catapulte comme ça, les unes après les autres, comme des lasagnes, enfin, une idée, une autre, une idée, une autre. Il y a en général une pensée générale. Enfin, il me semble qu'il y a une unité de pensée, un raisonnement parfois. Ce que qui m'a marqué dans ce petit passage, c'est qu'il est dit « Rachetez le temps car les jours sont, verset 16, mauvais ». Il me semble, même si on est dans un pays magnifique, qui fait soleil, qu'on a de quoi se nourrir, que nous rentrons quand même dans des temps qu'on peut considérer comme mauvais. Bon, c'est pas nouveau, mais déjà à l'époque, Paul disait que c'était des temps mauvais. Et le Seigneur disait déjà qu'il y a des choses à faire en des temps mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire en des temps mauvais? Justement, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant si le monde s'effondre, si les présidents commencent des guerres entre grands blocs ou je ne sais quoi, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Ben, ce qui est intéressant, ça a commencé au verset 14, réveille-toi. Ne pas dormir. On ne peut pas se permettre de dormir en des temps mauvais. 2, vivre avec sagesse et avec prudence. Versets 15 et 17 disent qu'il ne faut pas être inconsidéré, il ne faut pas être imprudent. Il y a des manières de vivre inconsidérées et imprudentes, et on a besoin de sagesse en des temps comme cela. Verset 16, il est dit « racheter le temps ». Qu'est-ce que ça veut dire « racheter le temps » On pourrait développer tout ça, mais « racheter le temps », ça veut dire en tout cas ne pas laisser sa vie filer, nos occupations, comme si tout allait merveilleusement. Et ne pas se préoccuper de ce qu'on fait. Racheter le temps, ça veut dire, et c'est un peu une des réponses à la question qui a été posée tout à l'heure, vivre à fond ce que le Seigneur attend de nous. On perd son temps quand on le vit à moitié, et on le perd en faisant ce qu'il ne faut pas. Et verset 17, pour cela, il faut comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce qu'on a des questions? Je ne sais pas ce que le Seigneur attend de moi. Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Je ne sais pas. Et finalement, tout n'est pas inscrit là, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur dit, ne vous enivrez pas de vin. On a compris, on le sait, on ne doit pas vivre dans la débauche. Mais en revanche, soyez remplis de l'Esprit. En des temps mauvais, avec toutes ces choses qu'on a vues, finalement, la seule chose qu'il importe de rechercher et de vivre aujourd'hui, c'est un ordre. Il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Certainement, vous aurez d'autres occasions d'en entendre parler. Mais on sait que c'est le but du Seigneur. En des temps mauvais, qui inclut tout ce qu'on doit faire ou ne pas faire, il faut être et vivre rempli de l'Esprit. Et Dieu, on en vient à notre sujet, et Dieu nous dit, juste après ça, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Il associe, je dis simplement, il associe l'idée de la plénitude de l'esprit avec le chant, avec l'hymnologie, avec la louange. C'est intéressant. Deux remarques. Dans le titre, j'ai dit musique, cantique et plénitude. Franchement, la belle musique fait du bien à l'âme. Je réfléchissais à ça tout à l'heure quand j'entendais les filles sauvages jouer des airs un peu connus, un peu classiques. Quand vous reconnaissez un air qui a été construit avec des harmonies magnifiques, avec des nuances, ça nous fait du bien à l'âme. C'est évident que la musique a un effet sur l'âme. Si vous prenez dans la Bible, à un moment donné, Saül, qui pourtant était influencé par un bien mauvais esprit, qu'est-ce que Dieu faisait ? Ben, il y avait David qui lui jouait de la lyre. Ça ne dit même pas qu'il chantait des cantiques, il lui jouait de la lyre. Et Saül avait un soulagement, il était apaisé. Pendant un temps, ça allait mieux, il respirait même plus à l'aise. Il était oppressé, les mauvaises influences certainement le troublaient. Eh bien, juste de la musique lui faisait du bien. Le problème avec ça, c'est pas un problème en soi, mais ça devient un problème si on attend trop de la musique. C'est que l'effet de la musique est limité. Parce que le même Saül, quand David arrêtait de jouer de la lyre, ben, il se levait, il prenait une lance et il voulait le transpercer, le planter dans le mur. Donc ça montrait que ça guérissait pas. C'était un effet momentané. Il y avait donc... Et il y a à la musique un effet bénéfique, ou parfois maléfique, selon le genre de musique. Mais en tout cas, il y a un effet qui n'est pas durable, qui est limité dans le temps, et je dirais même qui est limité dans la profondeur de son efficacité. La musique a un effet bénéfique, mais n'en résout pas tout, parce que ça n'atteint que les couches superficielles de notre âme. Donc c'est un soulagement, comme un onguent, mais ça ne guérit pas. Il fallait le dire pour la musique. Il est plutôt question, dans ce qu'on vient de lire, de cantique. Et là, on comprend. Ça veut dire qu'il y a musique et qu'il y a parole, qu'il y a pensée, qu'il y a idée, qu'il y a image, qu'il y a du contenu, pas simplement un effet. Et deuxième chose importante, pour qu'on ne se trompe pas, il n'est pas dit « Soyez remplis de l'esprit » et que des cantiques vous remplissent de l'esprit. Il est dit « Soyez remplis de l'esprit et entretenez-vous et exhortez-vous. » Le cantique n'a pas pour vocation de nous faire rentrer dans la plénitude de Dieu. Le cantique a pour vocation, selon la Bible, de nous entretenir dans un état de plénitude. C'est-à-dire, le chant, le cantique ne doit pas, comme certains le disent, nous faire, pendant une présidence, imaginons qu'on met une ambiance sonore et puis des cantiques où on pense que Dieu nous fait entrer dans la présence de Dieu. Certains pensent que la musique, que la présidence est là pour nous faire entrer ensemble dans la présence de Dieu. Il faut faire attention à ça, à cette attente. Alors bien sûr que la présidence, les pensées qui sont échangées, les partages, des cantiques aussi, peuvent à un moment donné nous éclairer, mais ça ne remplacera pas notre culte personnel, ça ne remplacera pas notre consécration personnelle, ça ne remplacera pas notre foi. Les choses qui seront partagées, voire les cantiques, n'ont un effet que dans la mesure où nous-mêmes on est disposés à obéir. Le cantique ne force pas. Vous savez, quand vous allez dans une grande surface, je suis un peu agacé parce qu'il y a un fond sonore et un peu énervant en général. Vous voyez, si vous allez dans une crêperie, on vous met un petit fond sonore détendu pour que vous mangez tranquillement. Mais quand vous allez en grande surface, on vous met une musique qui vous énerve et qui a un effet émotionnellement. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que j'aime choisir mes produits tranquillement. J'aime pas qu'on me presse, j'aime pas qu'on me pousse. Les cantiques n'ont pas pour vocation de nous pousser à faire quelque chose. Ils ont simplement pour vocation de nous entretenir, de nous garder, de nous maintenir dans un état. Alors Comment les cantiques, je me suis posé la question, pour l'instant je m'adresse, vous allez comprendre pourquoi, je m'adresse à notre intelligence. En parlant de choses spirituelles, je m'adresse d'abord à l'intelligence. Comment les cantiques, au fond, agissent pour entretenir la plénitude de l'esprit? Je pose la question. Je me la suis posée moi-même. Je me suis dit, bon d'accord, Dieu dit que ça entretient, mais en quoi des cantiques peuvent entretenir la vie de l'esprit? Et je me suis dit, en fait, quand vous lisez les cantiques, nous on comprend dimanche matin, culte et service. Mais les cantiques nous accompagnent toute la semaine, normalement. Normalement, quand on est rempli de l'esprit, et ça pour moi c'est même, si vous voulez, un petit symptôme, si dans ma semaine, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, dans mes trajets, je suis en train de chanter des cantiques, je me dis, ah, c'est parce que, oui, merci Seigneur, je suis quelque part rempli de l'esprit. C'est-à-dire, oui, la plénitude de l'esprit, ce n'est pas une situation extatique ou quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux nous arrive. C'est quelque chose que tout le monde peut vivre. Vous vous rendrez compte que vous êtes rempli de l'esprit parce que ça ne se voit pas, ce n'est pas écrit sur nous. C'est simplement, ça se manifeste. On reconnaît un arbre à ses fruits et vous vous rendrez compte que ça va avec le Seigneur, que vous êtes tout simplement en communion avec lui au moment où vous avez un chant, pas une musique hypnotique, pas une mélodie qui a été bien faite pour, comme les enfants quand ils ont dans leurs oreilles leur Walkman, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais enfin, leur iPod, pardon. Là, c'est là où vous voyez, il n'y a pas que la calvitie, il y a beaucoup de choses qui me font remonter au siècle passé. Eux, ils ont des phrases musicales sans parole ou qui ont très peu d'intérêt et qui répètent en boucle. C'est pas ça. Le cantique du Seigneur qui vient dans notre cœur, c'est une mélodie, c'est quelque chose qui vous porte, qui vous rend joyeux et qui remplit votre cœur alors que vous êtes en train de faire autre chose. Chantant et célébrant les louanges du Seigneur de, là il y a plusieurs traductions, de tout votre cœur ou dans votre cœur. Vous voyez, c'est quelque chose à la fois qui était en vous, dans votre mémoire, une mélodie et des paroles, mais finalement, le Seigneur, parce que vous êtes en communion avec lui, le fait sortir de votre cœur et vous êtes en train, eh bien, de louer le Seigneur alors que vous êtes occupé à autre chose. Et quand le Seigneur dit « soyez remplis de l'Esprit », il emploie cette expression « soyez continuellement vous remplissant de l'Esprit ». La plénitude de l'Esprit, c'est pas « ça y est, je suis rempli, je ferme les vannes, et maintenant je garde ma plénitude toute la journée. » C'est pas ça. La plénitude de l'esprit, c'est que la vie du Seigneur rentre tout le temps. Pourquoi ? Parce que nous, on donne toujours gloire au Seigneur. En vivant pour lui, en chantant, en servant, eh bien, on est en train de donner, de chanter pour le Seigneur, de faire quelque chose pour lui, et lui continue à nous remplir. Et on n'est pas rempli autrement que nous remplissant tout le temps de la vie du Seigneur et faisant quelque chose pour le Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande. Se remplir sans cesse. Et le cantique, c'est là où on comprend en quoi les cantiques peuvent entretenir notre plénitude. Et là, j'ai réfléchi un peu. Comme Marie, là je vais faire un jeu de mots, j'ai pas peur, si j'ai peur. Marie, vous connaissez ce verset, Marie repassait, pardon, elle repassait les chemises de son mari, non, voilà, je savais, là ça va, j'ai pas raté ma blague. Mais c'est important, cette petite blague, juste pour que vous vous souveniez, c'est faire repasser une promesse du Seigneur. Et peut-être que vous êtes en train de repasser des chemises, mais que vous repassez au même moment dans votre cœur une parole du Seigneur. Et c'est ça que fait le cantique, qui vous entretient. Vous êtes en train de vous occuper de choses terrestres qui pourraient vous accaparer, vous énerver, vous « j'en ai assez, il n'y a qu'à les mettre comme ça » ou « j'en ai assez de ce travail toujours le même ». Vous pouvez vivre comme ça, ou alors repasser, c'est-à-dire faire toujours les mêmes choses, peut-être, mais en repassant les bontés du Seigneur, les promesses que le Seigneur vous a faites. Et c'est ça, c'est dans ce sens-là que le cantique, vous remémorant les paroles du Seigneur, vous entretient. Il vous garde à un moment donné où vous êtes tout tout accaparé par des choses terrestres, il vous garde attaché aux choses célestes. C'est pas un privilège, ça ? Qu'on puisse vivre nos heures de journée, parfois toujours, enfin, parfois pas rigolotes, en ayant nos pensées dans le ciel, en ayant toujours notre mémoire et notre cœur alimenté par ça. Bon, ça, je pense que c'est une des vocations du cantique dans notre semaine. Et puis, vous savez, on vit dans un monde franchement disharmonieux, un monde qui est corrompu. Ou qu'est-ce qui circule comme information, comme pensée? Si vous êtes au travail, les gens se disputent, se jalousent, se critiquent, vous êtes au milieu de tout ça, vous êtes, et on est, nous aussi, troublés, et puis quand on entend des mauvaises choses, nous aussi, on commence à s'énerver, et puis on est... Eh bien, que fait le cantique? Le cantique laisse les choses à l'extérieur, et il entretient en nous la joie. Parce qu'il y a plein de choses dans nos journées qui vont éteindre la joie, étouffer la joie, tuer la joie. Ben, le cantique, c'est la vie et l'entretien de la joie du Seigneur. Quand vous chantez, quand vous regardez les artisans qui sifflent, ils n'ont que la musique et nous, en plus, on a les paroles. Ben, ça les entretient. Un peu d'harmonie et de beauté dans une journée de disharmonie et de laideur. C'est ça qui nous fait du bien aussi, qui fait du bien à notre cœur. Et là, je parle à l'âme plus qu'à l'intellect. Quand vous entendez une belle mélodie, c'est de l'harmonie. C'est pour ça que c'est agréable. Une mélodie bien construite, vous savez, il y a des gens qui font ça, il y a des notes qui vont avec, et on peut faire quelque chose de totalement disharmonieux, dérangeant, déstabilisant. On peut faire des mélodies comme ça, ou au contraire, des mélodies apaisantes, des constructions harmoniques qui font que notre âme a enfin un peu de beauté. Tout à l'heure, on est passé. J'essaie de me rappeler exactement comment c'était dit. Mais vous avez un musée contemporain ou une bibliothèque qui disait « La vie sans beauté n'est qu'un fardeau. » Hein ? Le théâtre, voilà. J'ai trouvé ça très bien. « La vie sans beauté, c'est qu'un fardeau. » Hein ? Moi, j'ai retenu ce qui est écrit. Donc, vous voyez, c'est ça qui compte. Hein. C'est de retenir ce qui est écrit. C'est ça. Mais ça, c'est la vie sans beauté. Ne vivre que pour l'utile. Ne vivre parce qu'on a quelque chose à faire. Ne vivre que pour gagner sa vie ou ramener à manger à la maison ou je ne sais pas quoi. Et c'est qu'un fardeau. Mais d'un coup, vous mettez de la beauté là-dedans. Et dans votre journée, vous avez un cantique avec une belle mélodie et des belles paroles. Eh bien, vous avez de la beauté en vous. Et la vie devient agréable. Et supportable, au moins, à défaut d'être agréable. Avoir de la beauté en soi. C'est pour ça que la musique, une belle musique, fait du bien. Alors, une belle musique et des paroles que cette musique ramène à notre esprit, vous comprenez pourquoi le Seigneur dit « Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes. » Parce que les paroles du Seigneur et la mélodie qui va avec. Sinon, il suffirait de retenir par cœur tous les versets de la Bible. Non, et la mélodie vont ensemble, un peu de beauté, un peu d'harmonie, et les promesses du Seigneur. Voilà quelques raisons. Et puis ça entretient quoi? Dans le verset d'Éphésiens, il termine en disant « Rendez continuellement grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il ne s'agit pas toute sa journée de dire « Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci de cette journée, Seigneur, merci de mon travail, Seigneur, merci de la santé ». C'est quoi? Enfin, c'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Mais quand c'est porté par un cantique, une vraie louange où votre cœur s'élance, vous rendez grâce, vraiment. Vous savez la différence quand même entre... Vous demandez à vos enfants qui ont reçu un cadeau, « Dis merci, merci. » Ah ben, il a dit merci. Mais est-ce que c'est ça que vous attendiez? Non. Mais en revanche, quand c'est dans un cantique et que vous êtes en train de vraiment rendre grâce au Seigneur... Ça nous aide, on n'a pas toujours envie de dire merci, franchement, la vie n'est pas toujours rigolote. Eh bien, la musique nous fait dire merci vraiment volontiers au Seigneur, et le Seigneur apprécie ça. Alors, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait voir, mais je m'arrête là pour la plénitude de l'esprit. Je ne vais pas faire trois points aussi longs. Le deuxième point sera aussi long, et le troisième sera bref. Je préfère rassurer à l'avance. Venons dans l'épître aux Colossiens maintenant. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 14, là encore, on va voir les versets qui introduisent et les versets qui suivent. 3, 14. C'est l'autre jambe. On a vu la première jambe, la plénitude de l'esprit, dans Éphésiens, et l'autre jambe, c'est Colossiens. Éphèse et Colosse, c'était des villes pas très loin, hein, c'était en Asie mineure. Ben, c'était deux jambes très proches. Elles se ressemblent, comme deux jambes se ressemblent, comme ces versets-là se ressemblent, mais avec des petites différences. Et on va le lire maintenant, Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bon, vous voyez que ça ressemble, mais il y a quand même des différences. La différence, c'est que tout à l'heure, il était question de la plénitude de l'esprit, et là, il est dit qu'il est question plus de la parole qui doit habiter dans toute sa richesse. C'est dans ce sens-là qu'on peut le voir comme une plénitude, dans toute sa richesse. D'autres traductions le disent. Hein. Il est dit que la parole doit habiter abondamment ou dans toute sa plénitude. Il y a vraiment cette possibilité de voir que la parole de Christ, par les cantiques, va habiter, demeurer en nous, dans toute sa richesse. Quand Dieu dit « toute sa richesse », ça veut dire quelque chose, je crois. Ça veut dire quelque chose. Il y a beaucoup d'idées qui sont associées à ça. Mais quel est le but, par rapport à tout à l'heure, quel est le but du cantique là ? Tout à l'heure, on était plus dans l'idée de chanter dans son cœur, mais là, comment vous voyez les cantiques dans ce passage-là ? Hein ? Alors, une chose très forte dont il n'était pas question tout à l'heure, il y avait juste « entretenez-vous ». Bon, là, il y a deux choses importantes, il y a « instruisez-vous » et « exhortez-vous », et deuxième idée, « les uns, les autres ». Donc là, on n'est plus seulement dans l'idée de ce qui nous entretient pendant notre semaine. On est là vraiment dans l'idée du cantique d'église qu'on chante ensemble. On est ensemble, les uns, les autres. Et les uns, les autres, la meilleure chose qu'on puisse faire les uns, les autres, c'est de s'instruire réciproquement. Il n'y a pas que les cantiques qui font ça. Le moment des partages, le moment où on parle, où on témoigne, où on raconte sa conversion, bon... Mais une manière de faire que le Seigneur approuve dans le culte, c'est ça. Le cantique est là pour qu'on s'instruise les uns les autres et qu'on s'exhorte les uns les autres. J'ai pris le mot grec pour ces deux mots. La traduction dit bien les choses. Instruction, c'est didasco. C'est quelqu'un qui va vous faire une étude biblique, enseigne, c'est de l'instruction. Un message, c'est de l'instruction. Actuellement, j'essaye de faire de l'instruction à partir de la Bible, sur un sujet. Et donc, le Seigneur dit que les cantiques sont là pour nous instruire, pour nous transmettre. L'idée de l'instruction, c'est des données, c'est des pensées. C'est, il ne faut pas avoir honte, ni peur de le dire, c'est notre intelligence qui est alimenté par des contenus, par toutes ces choses. On a besoin, en tant que chrétien, de ça. Nous, on dira, ben non, les cantiques, c'est parce que c'est beau, ça me plaît. Et le Seigneur dit, les cantiques, mon but, c'est que ça serve à vous instruire, à vous donner des informations. Donc, les cantiques que vous chantez, si c'est une phrase que vous répétez 20 fois, avec la même mélodie, « Oh, Dieu nous aime, Dieu nous aime, et Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. » Oh, je pourrais vous faire un cantique comme ça, mais j'y croirais absolument pas. Je crois que Dieu nous aime, mais ce n'est pas de l'avoir répété 50 fois qui change quoi que ce soit, ce n'est pas de l'instruction. Là, on est vraiment dans le... C'est hypnotique. Le cantique ne doit pas être hypnotique. Le cantique, il peut y avoir des répétitions, mais regardez les psaumes. Parfois, il y a une phrase qui revient sans cesse. Il y en a un en particulier qui dit « car sa miséricorde durera toujours ». Et alors, c'est répété dans le même psaume une douzaine de fois. Alors, on peut nous répondre, mais vous voyez que c'est bon de répéter, on peut le faire. Sauf que, à chaque fois qu'il est dit « car sa miséricorde durera toujours », il y a une affirmation différente à chaque fois. Donc, il y a, oui, un refrain qui revient, beaucoup de fois. La strophe est courte, mais n'empêche qu'à chaque fois, vous avez une strophe différente. On n'est pas dans la répétition hypnotique. Il y a des données qui nous sont transmises avec une conclusion qui est répétée. Une donnée et une conclusion. Donc, ce n'est pas de répéter qu'il y a de la vertu, c'est qu'il y ait transmission vraiment d'une pensée. Et c'est ça l'instruction. Le cantique a cette vocation. Dieu veut que ça nous serve d'instruction. Bien que ça soit une louange, la première partie n'est pas un moment où on se fait plaisir, c'est un moment aussi où on s'instruit les uns les autres. Et deuxième idée, et exhortez-vous. Vous savez, dans le grec, on connaît bien didasco, mais est-ce que quelqu'un connaît le mot grec pour exhorter? Parce que qu'est-ce qu'on comprend, nous, quand on dit exhorter? Allez les gars, courage, en avant, hein? Qu'est-ce que tu dis?
Persévère.
Dieu t'aime, etc. Dieu pourvoit. Waouh, là on est dans l'exhortation. Courage, tu n'as pas le moral, mais ça ira mieux demain, ou je ne sais quoi. Bon, Dieu dit des choses comme ça. Mais vous savez que le grec pour le mot exhorter, ça peut être traduit aussi par admonester. Qu'est-ce que c'est ça? Admonester. Le même mot peut être traduit par averti. Non, le cantique, c'est que pour dire des choses, c'est du miel, quoi. C'est pas. Les cantiques peuvent avoir du sel aussi. Quelque chose qui égratigne un peu, quelque chose qui gratte un peu. L'exhortation n'est pas que de dire, et il en faut, mais ça n'est pas que de dire « courage, tu es bien aimé, ma grâce te suffit, ma force... » Tout ça, c'est vrai. Le Seigneur t'aime, son amour ne s'éloignera pas de toi. Tout ça, c'est vrai. Ça fait partie de l'exhortation. Mais aussi, il y a parfois dans l'exhortation des avertissements sévères. Si vous ouvrez la Bible comme moi dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, lisez l'Épître aux Hébreux, lisez des fois des avertissements, il y a aussi des choses qui nous secouent. Et les cantiques, s'ils sont bien construits, devraient de temps en temps aussi nous égratigner un peu. Pas simplement aller dans le sens de « c'est bien, c'est tout va bien ». Un bon cantique, en fait, en réalité, c'est un message. On serait prêt à accepter que celui qui vient ouvrir la Bible à une étude ou à un message, bien qu'il y ait une partie quand même de correction. C'est écrit dans la Bible qu'il faut que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et pour ça, il faut que la parole, ben oui, nous corrige, nous reprenne. Ben, les cantiques devraient pouvoir le faire aussi et doivent le faire aussi. Un bon cantique, en fait, est un bon message. Et qu'est-ce qu'on attend d'un bon message? Qu'on soit nourri, ça c'est l'instruction, et quelque part, on attend un peu que notre cœur soit touché. Et ça, c'est l'exhortation. En fait, notre cœur touché, des fois il est dur, il a besoin d'être piqué. D'autres fois, il est attristé, il a besoin d'être relevé. Et il ne faut pas piquer quelqu'un qui a besoin d'être consolé et pas caresser dans le poil quelqu'un qui a besoin d'être repris. Ben, les cantiques, comme un bon message, ont cette vertu. Devraient ou doivent nous nourrir et nous toucher. C'est les deux composantes d'un bon message, normalement, qui s'adresse à notre intelligence, qu'on comprenne des choses, et ensuite à notre sentiment et à notre volonté, pour qu'on mette en pratique. D'avoir compris, ne fait pas qu'on met en pratique. Tout le monde a compris que fumer donne le cancer. Et pourtant, beaucoup continuent à fumer. On a compris, mais on n'est pas touché encore. On a compris qu'on est pécheur. Mais des fois, est-ce qu'on est vraiment touché par ça? On a compris qu'on devrait se repentir, qu'on devrait aimer plus le Seigneur. On l'a tous compris, on l'a tous dit. Ah oui, on ne t'aime pas comme il faut. C'est vrai, je ne l'aime pas non plus comme il faut. Mais pour autant, est-ce que je me repens? Est-ce que mon cœur a été touché au point, je dirais même vivement touché, au point qu'on dise, Seigneur, que faut-il que je fasse? Pas juste de dire, bon, on va trouver des... Que faut-il que je fasse? Moi, je suis concerné, je sais devant toi que ça ne va pas. Eh bien, il faut que le Seigneur nous touche aussi, qu'il nous donne les informations pour nous disposer à l'écouter, et qu'après, il nous touche pour qu'on ait envie d'obéir, envie de changer, envie d'arrêter des choses, envie de faire ce qu'il attend de nous. Alors, les cantiques doivent être dans toute leur richesse. Il n'y a pas de sujet qu'un cantique ne devrait aborder. Un bon message, un bon prédicateur, enfin en tout cas quelqu'un qui enseigne bien, si vous prêche toujours le même genre de message, tous les dimanches. Allez, je prends un autre exemple, j'aime les pâtes. Et une fois, je suis parti en week-end avec des amis et je me suis chargé de la cuisine. Et à tous les repas, j'ai fait des pâtes. Moi, j'étais content. Pâte à la sauce tomate, pâte à la carbonara, enfin, plein de pâtes au saumon. Enfin, j'étais ravi. Alors, ils étaient contents au début. Premier repas, ils étaient contents. Deuxième repas, contents. Troisième repas, encore des pâtes. Elles sont bonnes, tes pâtes. Mais à la fin, on m'a dit, mais quand même, Didier, il y a autre chose que des pâtes. Quoi. Tu peux pas nous faire autre chose que des pâtes. On se contenterait pas de toujours le même repas. Toujours la même chose. Dieu a créé une grande diversité d'aliments, une grande diversité de fruits, de légumes, de saveurs. Et tout ça, c'est nécessaire pour notre santé spirituelle. Pourquoi on a besoin de toute la richesse de la parole de Dieu? Parce que notre esprit a besoin de tous les ingrédients nécessaires à notre épanouissement spirituel. On a besoin de tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il quitte Éphèse, il dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je ne vous ai pas fait que des pâtes. Je vous ai fait de tout. » Vous voulez que vos enfants grandissent bien, ben il faut leur faire de tout. Ils n'aiment pas les légumes, ben vous faites quand même des légumes un peu différemment. Et on a besoin de tout. Dans les églises, on n'aime pas des messages sur ci ou sur ça. Eh ben, il faut quand même les faire parce que c'est tout le conseil de Dieu. Et on peut estimer qu'on a reçu un bon enseignement que dans la mesure où on aborde tous les sujets, toute la richesse de Dieu. Si on prêche toujours la même chose, on est privé d'autres éléments nécessaires à notre croissance et à notre maturité. Donc, voilà pourquoi il faut une grande variété. Et là, si on revient au cantique, une grande variété de doctrines. On n'arrive pas à trouver des cantiques sur tel ou tel sujet. Voilà, les nouveaux recueils ne parlent pas du retour de Christ, ou ne parlent pas de péché, ou ci ou là, on est toujours dans l'exhortation, combat, victoire et gloire. Bon, mais il y a plein d'autres sujets. Pourquoi pas de sujets sur la communion avec le Seigneur? Pourquoi pas de sujets sur le premier amour? Pourquoi pas des sujets sur des versets de l'Apocalypse qui disent « Mais reviens, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Pourquoi pas? Toutes les pensées qui sont dans la parole de Dieu devraient être en cantique. Bon, toute sa richesse. Il y a aussi une grande richesse de style. Si on a plein de doctrines différentes, il faut aussi qu'on ait des styles de cantiques différents. Je ne dis pas, bon, il en faut qui ont le style rock, il en faut qui aient le style jazz, c'est pas ça. Différence de style, c'est que vous avez des cantiques qui sont tristes. Il y a des mélodies dans la Bible. Quand David écrit à la mort de Jonathan, il écrit une complainte. Il n'écrit pas un « Amen, Alléluia ». Il écrit une complainte, un chant de tristesse. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut des cantiques qui sont des moments de tristesse, qui accompagnent notre tristesse. Parce que nous sommes faits comme ça. Nous avons des moments de tristesse et des moments de joie. Il faut des moments de joie. Je vous lis juste... Allez, parce que là, c'est vrai que je n'en ai pas lu beaucoup à titre d'exemple, mais le psaume 98. Il faut... des cantiques complaintes, mais pas que des cantiques complaintes quand même. Et le psaume 98 est assez intéressant, vous allez voir pourquoi. Psaume, verset 4. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Bon, je trouvais frappant l'idée d'éclater. Éclater en cris de joie, on serait mal à l'aise dans l'église si on commençait à pousser des grands cris de... Mais des fois, c'est vrai qu'il y a plusieurs genres de joie. Bach a écrit que ma joie demeure. C'est une mélodie très douce, très harmonique. Mais après, vous avez l'hymne européen qui a été traduit comme « Ô joie immense infinie ». Même la joie, il y a des nuances. Il y a des joies discrètes, douces et vous avez la joie d'un spectacle de moutons avec un ruisseau, vous avez cette joie de la beauté de la nature. Et puis d'autres fois, vous êtes dans un stade de football, et puis... je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais...
Marseille, hein.
Et puis, vous aviez perdu 4-0, et à la dernière seconde, vous gagnez 6-1.
Impossible.
Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé. Ceux qui connaissent le foot un peu, bon. Mais peu importe. C'est ce qui s'est passé. Je vous assure. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu une image à un moment donné d'un but. Et c'est étonnant. Vous avez tout ce stade. Là, c'était une équipe en rouge. Vous avez d'un coup le ballon qui passe une ligne et puis qui rentre dans un filet. Mais d'un coup, vous avez 70 000 personnes de la même couleur qui se lèvent, qui poussent un grand cri et qui... éclate, mais vraiment le stade éclate d'allégresse. C'est là où vous comprenez ce que ça veut dire éclater. Avant c'était le silence, et puis plouc, le ballon passe, et puis éclate. Vous avez l'exemple parfait de ce que ça veut dire éclater d'allégresse. Je crois que c'est arrivé deux fois en France depuis. C'est arrivé à l'armistice, et c'est arrivé quand 98 l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Voilà, que tout un pays éclate d'allégresse. C'est ça éclater. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que après avoir éclaté d'allégresse, le stade, mais spontanément, il n'y a pas quelqu'un qui arrivait avec un micro, le stade spontanément s'est mis à chanter un chant. C'était impressionnant. Cette explosion de joie est immédiatement suivie d'un chant d'allégresse. La délivrance. Quand le Seigneur vous a délivré de quelque chose, votre salut est suivi d'un éclatement de joie, du pardon, de la grâce que vous avez reçue. Mais normalement, ce qui suit après, c'est le chant. Moi, je me suis mis à chanter. Bon, j'aimais bien chanter avant, mais je ne savais pas quoi chanter, je n'avais rien qui m'animait. Mais quand je me suis converti, l'église sortait dans les rues pour chanter des cantiques. Je sortais dans la rue et j'étais heureux à chanter des cantiques. Je ne connaissais pas les cantiques en hébreu. Je suivais et j'étais heureux. C'était une évidence. Le chant suit spontanément. On est comme ça. On peut ne pas bien chanter. On peut ne pas, en France, on n'est pas formé à bien chanter. On ne sait pas lire les notes. Mais peu importe. Il y a un moment donné, on entend la mélodie, on la chante. Quand on est délivré, ça vient, ça suit, on éclate d'allégresse. Donc, ça, c'est pour la joie. Et les cantiques, il y a plein d'émotions. Parce qu'on est plein d'émotions. Il n'y a pas joyeux ou triste. Entre les deux, vous avez une multitude d'émotions, de nuances. Et les cantiques aussi, avec des multitudes de doctrines et de richesses de doctrines, ont aussi des richesses d'émotions. Toute mélodie est légèrement différente, un peu plus triste, un peu plus... Comme vous avez toujours les mêmes ingrédients dans un gâteau, il faut de la farine, peut-être des œufs et du lait, mais vous avez une multitude de gâteaux différents, avec des dosages différents, plus ou moins de sucre, plus ou moins de ci. Bon, on a compris. La richesse, c'est la variété, c'est la diversité. Des sujets, des doctrines, des styles musicaux, des musiciens et des instruments. Est-ce que vous commencez un chant glorieux avec juste une petite guitare? Vous pensez un chant glorieux, qu'est-ce que vous entendez comme instrument? Hein? Trompette, cymbale. Les instruments, on n'a pas besoin d'avoir toujours un orchestre pour tous les genres de cantiques. Il y a des cantiques qui se prêtent à avoir un orchestre qui va accompagner et que tout le monde chante à tue-tête. Et puis vous avez d'autres chants très intimistes. Dans les psaumes, David commence parfois en disant « chante sur la harpe ». Juste une harpe. Et puis d'autres fois, trompette, cymbale, parce que ce n'est pas le même genre de chant. On ne chante pas avec des cymbales, un petit chant qui parle de la communion avec le Seigneur. Donc la variété des instruments aussi est importante. Si vous avez joué, n'hésitez pas. Il y a de quoi. Et pas tout le temps, mais que ça soit adapté. Et là, c'est un petit partage personnel. Il y a deux versets qui m'ont beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un cantique. Je vous les lis. Psaume 45, verset 1. Alors, j'avais dit 45 minutes. On en est à combien? Je crois qu'on arrive à... Hein, on y arrive. Enfin, il va falloir que je raccourcisse. Bon, 45, verset 1. Finalement, au chef des chantres sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Bon, là il y aurait beaucoup à dire, mais je trouve intéressant, avec ce verset-là et puis un autre, et là on est dans le psaume 49, verset 3. Peut-être verset 4 pour commencer. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Donc vous voyez, là on a aussi quelque chose d'important à se rappeler dans les vertus du cantique. Un cantique peut être un chant d'amour. Et dans le sens où c'est l'expression de l'amour, voilà, je connais quelqu'un qui m'a aidé à faire des traductions en anglais, et c'est quelqu'un qui m'a dit « Oui, je peux le faire, j'aime bien composer. » Quand j'étais fiancé, j'ai écrit beaucoup de poèmes d'amour à ma future épouse. Ben oui, c'est quelque chose qu'on fait par amour pour le Seigneur, que d'écrire des cantiques qui lui sont adressés. Oh, il pourrait faire un milliard de fois mieux que nous, mais peu importe. Même si c'est malhabile, même si c'est simple, même s'il y a des défauts, c'est quand même un chant d'amour. Mais ceci dit, il dit des paroles, il aimerait bien avoir la plume d'un écrivain, quoi. C'est pas de dire, oh, pourvu que je te dis que je t'aime, que tu es le grand et que tu es beau et que moi je suis rien. Non, il faut y mettre, puisqu'il est question de toute la richesse du Seigneur aussi, il faut y mettre quand même de l'application. On fait pas ça avec négligence, il devrait y avoir... J'aime pas employer le mot « excellence », parce que je crois que l'excellence est réservée à Jésus-Christ. Mais quand même de l'application et du sérieux dans ces choses-là, dans le cantique, on ne peut pas dire n'importe quoi sous prétexte que ça sort du cœur. Mais aussi des paroles pleines de sens. Qu'est-ce qui importe quand on fait une traduction? C'est avant la forme, c'est le sens. Tout à l'heure, on a vu qu'il était question d'instruction. Si les gens ne comprennent pas ce que vous racontez, ça ne sert à rien. Si c'est pas les mots, c'est pas des formules magiques, la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être traduite différemment. Ce qui importe, c'est qu'on ait reçu, perçu le sens. Et quand David se mettait à composer, il écoutait même ce qu'il allait composer, parce qu'il se disait, si c'est Dieu qui m'a inspiré, ben je vais écouter, et il va percevoir le sens. Il faut faire attention, parfois des cantiques sont très beaux, très poésiques. La poésie, c'est d'associer des images, des mots qui sont esthétiques. Mais qu'est-ce que ça dit au fait, ce cantique-là? Et j'ai vu des fois des cantiques qui... Voilà, si vous parlez de bougies, de lumière, de... Enfin, je ne vais pas employer deux mots parce que vous allez peut-être penser à des cantiques qui sont bons et dans lesquels il y a ces mots-là. Mais vous avez là des idées suggestives. Et donc ça devient de la poésie parce que c'est esthétique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il a voulu dire là au fond? Qu'est-ce que ça signifie? Ça parle de quoi? De la communion, du péché, de quelle qualité je vois de Dieu là-dedans? Enfin, les mots ont leur importance. Donc il faut de la poésie, mais il faut du sens. Et David, quand il était inspiré de Dieu, ben, il pouvait faire, franchement, vous lisez les psaumes, il y a de la poésie et il y a du sens. Vous lisez les épîtres, il y a de la poésie, il y a du sens. Alors, comme je ne veux pas trop dépasser, je vous laisse avec Éphésiens chapitre 3, verset 16. Dans cette liste, il y a les psaumes, c'est spirituel. Il y a les hymnes, pourvu que ce soit la gloire de Dieu, c'est glorieux, c'est super. Et il y a les cantiques spirituels. Qu'est-ce que c'est qu'un cantique spirituel? Ah, ça c'est spirituel. Ah non, ça ne l'est pas. Comment on peut savoir si c'est spirituel ou pas? On reconnaît un arbre à ses fruits. L'esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même. C'est ce que dit l'évangile de Jean. Il ne se glorifiera pas. Un cantique spirituel ne veut pas dire qu'il y a le mot esprit dedans. Un cantique spirituel, c'est que si l'esprit l'anime, quel est le but de l'esprit de Dieu? Quel est le but de l'esprit de Dieu que Dieu nous a envoyé? Il nous a scellés, mais Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il n'y a pas plus spirituel qu'un cantique qui parle de Jésus-Christ. De Jésus-Christ crucifié, de la connaissance de son amour. Et c'est pour ça que je voulais vous lire Éphésiens, pour terminer, Éphésiens 3:16. Que Christ habite dans vos corps, dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voulez un cantique qui peut vous entretenir, et peut-être même plus qu'entretenir. Quand j'ai dit tout à l'heure, il fallait, ça n'avait pas pour vocation de susciter. Par expérience, on sait que parfois des cantiques ont cette vertu de, effectivement, de nous faire mieux comprendre Christ. Ils nous instruisent et ils nous touchent sur l'amour de Christ, sur la profondeur, la largeur. Est-ce qu'on n'a pas un sujet inépuisable ? Que la profondeur de l'amour de Christ qui vient nous rejoindre dans la misère de notre péché, que la hauteur de l'amour de Christ qui nous élève jusqu'à être promis à la gloire et à l'éternité alors qu'on ne le méritera jamais, et la largeur de son amour qui vient nous chercher dans toutes les circonstances de notre existence, à l'est ou à l'ouest, cet amour qui est toujours là. Est-ce qu'on n'a pas là un sujet parfait ? Est-ce qu'on n'a pas la croix ? Est-ce que la croix n'est pas l'amour de Dieu parfait, exprimé, qui nous rejoint partout, qui englobe tout le monde, juif et gentil, et toutes les nations et tous les hommes, qui aiment les musulmans, qui aiment les tout le monde ? Est-ce qu'on n'a pas là un sujet qui condense tout ? Alors la conclusion, c'est, s'il y a la plénitude de l'esprit, s'il y a la plénitude de la parole, quelle est notre réponse ? Oui, la reconnaissance, mais la plénitude de nous-mêmes. Dieu mérite la plénitude de nous-mêmes. Il ne se contente pas de la moitié de nous-mêmes. Il ne se contentera jamais d'un petit moment dans notre agenda, une fois par semaine. Il ne se contentera pas de 10% de notre argent. Il veut tout. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais... Le premier commandement de Dieu. Quand Dieu dévoile son cœur à son peuple, il lui dit, bon, ce que j'aimerais bien que tu fasses, pas que tu repeignes la chambre ou que tu me fasses un gâteau pour mon anniversaire. L'amour, ça se manifeste de plein de manières. Je trouve beau un jeune couple parce qu'il y a des gestes d'affection. Tout simple. Un jeune couple voyait l'épouse passer la main dans le dos de son mari et de poser sa tête sur l'épaule de son mari. C'est le premier amour. Des gestes d'affection, ce n'est pas extraordinaire. On ne peut pas faire plus peut-être à cet instant-là, mais on le fait. Un geste d'affection. Qu'est-ce que le Seigneur vous montre qui est un geste d'affection pour lui ? Ça va se manifester de 50 choses différentes. Fais ceci et tu vivras. Quand ce juif religieux est venu à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu ? Il lui dit, ben, tu connais les commandements. Le premier commandement, c'est quoi ? Tu veux me faire plaisir ? Voilà, vous voulez faire plaisir à votre épouse ? Vous lui dites, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Un appareil ménager ? Un week-end à Lisbonne ? Un bouquet de fleurs ? Ou juste une soirée avec moi ? Une va dire, ah oui, juste une soirée avec toi. L'autre, elle dira, ah oui, l'appareil ménager. La troisième... toutes les femmes sont différentes, comme nous, les hommes, nous sommes tous différents. Mais vous venez, vous dites, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je veux te faire plaisir, je veux que tu sois content. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous ? On vient le voir, on lui dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Parce que qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce que j'aime faire dans l'œuvre ? J'aime bien parler, moi. Ou j'aime bien jouer de la guitare. Ou j'aime bien faire la cuisine. Ou j'aime bien faire les travaux. Ok, fais-le déjà. Mais qu'est-ce qui me plaît ? Et qu'est-ce que Dieu vous dit, vous montre ? Qu'est-ce qu'il attend de vous ? Qu'est-ce qui lui plaît ? Qu'est-ce qui lui fait plaisir ? Quel geste d'affection vous pourriez avoir ? Dieu dit, celui qui m'aime de tout mon cœur, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Ce n'est pas juste un petit détail. Des fois, c'est un geste d'affection. Des fois, c'est vivre jusqu'à la mort pour toi. Des fois, c'est te sacrifier pour faire quelque chose pour toi. Dieu ne peut pas accepter moins que ça. Lui, il s'est donné tout entier à la croix. Il ne peut pas accepter moins. Il accepte, bien sûr. Et jusqu'au ciel, on ne l'aimera pas assez. Mais à chaque fois qu'il nous montre quelque chose, fais ceci et tu vivras. Si Dieu vous a montré quelque chose, une chose, un petit détail. Dans le couple, des fois, c'est le petit détail qui montre qu'on veut faire plaisir à l'autre. Voilà, vous faites la vaisselle qui s'accumulait, l'autre était fatigué, vous la faites. Je ne sais pas ce que ça peut être, un petit ceci. Mais si le Seigneur vous montre quelque chose, ce n'est pas autre chose. Ne lui dites pas « oui, je ferai ça pour toi, je donnerai ça ». Si c'est ça qu'il attend de vous, c'est peut-être rien, mais c'est ceci. L'amour, c'est ceci. Fais ceci et tu vivras. Et vous savez quoi ? La plénitude de l'esprit, ce n'est pas de passer 8 heures de jeûne et de prière, de s'enfermer pendant un mois à la montagne pour retrouver je ne sais quelle expérience. C'est chaque fois que le Seigneur nous montre quelque chose, qu'on a entendu sa voix et qu'on fait ce qu'il nous demande. Chaque fois, ceci, j'ai entendu ta voix, Seigneur, je le fais. Et vous, et à nouveau, vous avez des fleuves qui jaillissent. À nouveau, c'est votre premier amour. À nouveau, vous avez des chants de louanges. Je laisse ma place maintenant.